Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Niveau Supérieur. Aujourd'hui, ébouriffez-vous les cheveux. J'arrive pas à le dire, putain. Aujourd'hui, Mettez vos cheveux en bataille, sortez votre plus beau bandana, votre DeLorean, parce qu'on va parler de Chrono Trigger. J'ose même plus regarder combien de temps ça fait que j'ai pas fait d'épisode, là, j'avoue. Certes, j'ai dit que le podcast était devenu bimestriel, bimensuel, je sais plus comment j'avais dit, vous voyez. Mais là, quand même, j'avoue, je déconne un peu. Pourtant, j'ai pas arrêté de jouer à des JRPG. Enfin, si, j'ai arrêté pour jouer à Elden Ring. Et après, j'ai eu une sorte de petite conscience professionnelle qui m'a dit non, il faut arrêter Elden Ring et reprendre les JRPG. Donc, j'ai même pas fini Elden Ring. J'en suis à 100 heures, j'ai pas fini. Et j'ai repris les JRPG. Et du coup, bah, j'ai fini Chrono Trigger, je suis à la fin d'un autre JRPG, il faut juste que je me motive à finir les 5 dernières heures. Et là, je suis à 50 heures d'un autre JRPG. Donc ça bosse, mais ça n'enregistre pas de podcast. Et vous savez, moins on en fait, plus c'est dur de le faire. Parce qu'on se dit, ah mais je ne sais plus faire la magie du direct différé, mais du direct quand même, seul face à son micro. C'est dur à reproduire, à retrouver. Mais bon, j'essaye. J'espère que ce sera pas trop nul, que je n'ai pas trop rouillé pendant cette longue absence. Surtout qu'on revient avec du lourd, là, on revient avec Chrono Trigger, jeu souvent cité comme un des meilleurs JRPG de tous les temps, hein, dans les tops qu'on peut voir par-ci par-là. Et du coup, forcément, ça impressionne un peu. Moi, je sais que j'ai essayé d'y jouer beaucoup de fois à ce jeu. Je l'ai commencé vraiment très souvent. Quand j'ai commencé à comprendre ce qu'était un JRPG, à m'y intéresser un peu, je sais pas, dès l'adolescence, quoi. Sur émulateur, et puis bah, j'y arrivais pas, je finissais par m'arrêter, par-ci, par-là. Je sais qu'un jour, j'ai dû m'arrêter parce que la première fois qu'on va à la fin des temps, on doit tourner 3 fois autour de la pièce pour récupérer la magie avec le petit bonhomme, là. Et mon émulateur était buggé, et du coup, il prenait pas en compte les tours. J'arrivais pas à les faire comme il faut. Du coup, bah, je me suis arrêté là, c'est le plus loin où je suis allé, je crois, avant de la finir cette fois-ci. Mais du coup, ouais, y a une sorte de... Chrono Trigger te regarde, quoi. Il y a un vertige, il y a une appréhension, parce que c'est un gros jeu dans l'esprit de tout le monde, dans l'historiographie du jeu vidéo et du JRPG. Et forcément, du coup, la problématique, on va dire, la question que je me pose, elle s'impose d'elle-même. Est-ce que y jouer aujourd'hui, le finir pour la première fois en 2022, ça... Ma phrase est mal formulée. Est-ce que quand on le finit pour la première fois en 2022, ça tient encore la route? Est-ce que c'est encore un classique? Est-ce qu'on peut avoir accès à ce statut culte de Chrono Trigger? Ou est-ce que c'est une histoire de nostalgie, ni plus ni moins? On va voir ensemble. Hein. Pour le coup, il n'y a pas de mystère, à part cette question qui est l'éléphant dans la pièce. Hein. Je ne parle pas d'un membre du Parti Socialiste. Ouais, je vais bientôt commencer une petite carrière sur France Inter. Je ne vous ai pas dit. Du coup, c'est la question qui vient forcément en tête et à laquelle je vais essayer de répondre en reprenant les différents éléments, les différents critères qu'on pourrait citer pour dire que c'est le max du JRPG, pour parler un peu comme dans les années 90, moment où ce jeu est sorti. Allez, c'est parti, tout de suite, Chrono Trigger. C'est un week-end soleil bleu, c'est un week-end amoureux, je veux tout ce que tu veux, je veux rêver dans tes yeux, c'est un week-end tout le temps, passe comme un jeu, alors week-end, sur ta radio.
Détends, détends, lazy, lazy, programme Europe 2.
se demande du coup pourquoi Chrono Trigger est un monument dans le JRPG. La réponse qui vient, je pense, souvent, et c'est même presque comme ça qu'on évoque le jeu en premier, c'est parce qu'il a été fait par la Dream Team. Pour être précis du coup, Chrono Trigger il est sorti en 95 au Japon, en 96 aux US, en 2009 en Europe, sur DS avec un remake. Et il a été fait du coup par Square, par une Dream Team, qui du coup était composée, si on cite les trois gros noms qui reviennent souvent, composée d'Akira Toriyama au chara-design, de Yuji Horii pour la supervision du scénario et de Hironobu Sakaguchi pour la supervision du système de combat. Du coup, on a Monsieur Dragon Ball, Monsieur Dragon Quest et Monsieur Final Fantasy réunis ensemble et forcément, ça ne pouvait faire qu'un jeu incroyable. Et oui, c'est vrai, on va pas se mentir, ça fait rêver comme casting. Mais c'est pas les seuls à participer au jeu, vous vous en doutez. À vrai dire, ces trois-là, ils ont entre guillemets, pas fait grand-chose, ou en tout cas, Horii et Sakaguchi, ils ont supervisé. Ceux qui ont vraiment eu les mains dans le cambouis, les réalisateurs, on peut les citer, il y a Takashi Tokita, qui l'année d'avant avait fait Live Alive, qui d'ailleurs ressort bientôt sur Switch en remake, je crois, cet été. Il a, du coup, sur Chrono Trigger, fait l'écriture de quelques quêtes annexes, et il avait aussi le rôle de planeur, qui a un rôle un peu particulier dans les studios japonais, que je pourrais pas très bien expliquer, je sais juste que c'est un rôle qui n'existe pas trop dans les structures occidentales et qui est assez précis et dépendant de comment fonctionnaient les studios japonais à l'époque. Il y a aussi Yoshinori Kitase, qui sort à peine de la réalisation de FF6 quand il commence Chrono Trigger, qui plus tard va aussi s'occuper de FF7, de FF8, de FF10, qui a lui aussi écrit des bouts de scénar, qui a aussi pas mal écrit pour FF7, pour FF10, entre autres. Kitase, il est encore chez Square aujourd'hui, assez représenté, parce que je crois qu'il bosse toujours sur FF7 Remake avec Nomura. Et on peut aussi citer Akihiko Matsui, qui a bossé sur Romantic Saga 2 et sur d'autres systèmes de combat, et qui du coup se charge des scripts de combat dans Chrono Trigger. Et enfin, on peut citer pour le kiff, Kazuhiko Aoki, qui est un producteur et qui du coup a dû gérer un peu l'association de la Dream Team, comment rendre ça possible, ce qui devait pas être une mince affaire à mon avis, vu l'aura des trois bonhommes qu'il fallait réunir. On pense pas assez aux producteurs, à ceux qui... En fait, je sais pas trop ce que c'est un producteur, mais j'imagine que ça doit être chiant à gérer, de s'occuper des petits détails techniques relous pour faire en sorte que trois grandes pontes du jeu vidéo se réunissent. Celui qui a écrit le script précisément de Chrono Trigger, la plus grande partie en tout cas, c'est Masato Kato, qui du coup s'est basé sur le brouillon de Horii. Et Masato Kato, on le connaîtra encore plus tard, parce qu'il s'est occupé de Xenogears. Et du coup, grosso modo, Kato, il a écrit la plupart du script, même si Kitase et Tokita, ils ont écrit des petits passages. Du coup, rien que là, l'idée de la Dream Team, parce que je ne m'amuse pas à citer tous ces noms pour rien, elle s'effrite un petit peu. En fait, il y a beaucoup des devs qui ont bossé sur Chrono Trigger, qui sortent de FF6, qui sont rodés. Et en gros, l'argument de la Dream Team, ça a plus permis, dans le développement concret et matériel du jeu, un gros temps de pré-production, où on a pu du coup laisser le temps à ces grandes pontes Sakaguchi, Horii, Toriyama de réfléchir entre eux, de poser les concepts, etc., de donner des très bonnes bases. Mais on leur a laissé plus de temps que d'habitude parce qu'on respectait et qu'on voulait que l'association soit faite. Le jeu a pris 2 ans, et c'est beaucoup pour l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est rien, mais à l'époque, c'est beaucoup, 2 ans. Et ça a sûrement permis de débloquer plus de moyens, de budget, de thunes et aussi plus de temps pour que le jeu soit vachement plus rodé à la fin. Et je pense que du coup, la Dream Team, faut peut-être pas la voir uniquement comme une sorte de théorie de l'auteur un peu mal dégrossie de « Ah, ce sont des génies, du coup, ils se réunissent, ça fait un truc génial. » Ce sont des gens qui ont fait leurs preuves, qui ont fait des trucs super, qui dans ce jeu-là n'ont pas eu les mains directement dans le cambouis, ont plus été des superviseurs, mais leur simple présence a permis matériellement plus de moyens financiers et temporels, et en plus, les artisans qui concrètement ont codé, ont écrit, etc., eux, ils étaient dans une lancée de ouf, ils venaient de faire FF6, en fait, la plupart des gens de chez Square, ou Live Alive, ou Romantic Saga 2, enfin, ils étaient là, quoi, il y avait une sorte d'élan créatif qui a continué, et qui a permis, je pense, d'arriver à Chrono Trigger. Du coup, j'aime pas trop cet argument de la Dream Team, il m'agace un peu, je trouve que c'est une vision très personnalisée de l'histoire de Chrono Trigger et des JRPG, etc., etc. Alors que ça serait beaucoup plus intéressant de voir ça d'un point de vue un peu plus structurelle, on va dire. En tout cas, comme je le dis, ouais, moins basée autour de personnalités centrales et apparemment intouchables et incroyables. Là, vous allez me dire, oui, mais Stavros, tu ne fais qu'en rajouter d'autres par-dessus. Oui, j'ai pas le nom de tout le monde, effectivement, je ne suis pas un générique. Mais rien qu'en précisant le rôle de chacun, de chacune, le fait qu'il n'y ait pas juste trois personnes qui bossent sur le jeu, qu'en fait, ils ont apporté des idées, mais que c'est pas eux qui ont concrètement fait tout le taf, même s'ils y ont participé, je ne suis pas un révisionniste de l'histoire. Je trouve que c'est plus intéressant, du coup, de voir ça comme un travail d'équipe, de comprendre ce qu'a permis la présence de ces grands noms, d'où venait la plupart de l'équipe qui a bossé sur le jeu, même si je sais que je suis pas extrêmement précis, je pourrais l'être plus, mais j'ai la flemme. Et là, du coup, on commence un peu plus à comprendre, oui, que les gens qui ont fait le jeu ont une importance et ont pu participer au fait que ce soit un grand jeu, mais les gens qui ont fait le jeu, c'est pas trois types. Aussi super soit-il. Voilà. Déjà, on commence par ça, par, on va dire, calmer un peu cet argument, parce qu'on l'entend tout le temps, on parle du jeu presque que pour ça, et c'est un point de vente, effectivement, et encore une fois, ça fait plaisir. On imagine Yuji Horii et Sakaguchi qui bossent ensemble, évidemment que ça fait plaisir. C'est comme si, c'est comme revoir Naruto et Sasuke retravailler ensemble, c'est comme si Pepsi et Cola faisaient une boisson. Pepsi et Cola, comme si... Vous me direz, comme si Pepsi Cola, c'était deux trucs différents, Pepsi et Cola, mais j'ai appris récemment, grâce à une amie que je remercie et qui se reconnaîtra, que les frérots de la Vega, on pourrait se dire, bon bah ce sont deux frères, les frères de la Vega. Non, il y en a un qui s'appelle frérot et un qui s'appelle de la Vega. Et ouais. Donc mon erreur, Pepsi et Cola, qui est une sorte de fourchement de langue, hein, évidemment, pourrait en fait être une expression pour parler... vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et puis je vous ai donné une petite info intéressante qu'on m'a donnée moi-même et que je ne pouvais pas ne pas transmettre. Tout ça pour dire que la Dream Team, c'est pas que eux qui ont fait le jeu, quoi. C'est parti en couille. Attends, c'était sur une bonne lancée et là... ça se trouve, on lui aurait même pas remarqué que j'ai dit Pepsi et Cola si je m'étais pas arrêté dessus. Mais bref, tant pis, c'est trop tard. Premier argument, je dis pas qu'il compte pas, j'ai juste que ça fait longtemps qu'on l'entend, il nous saoule un peu, et puis c'est pas extrêmement vrai, et je pense qu'avoir une vision de l'histoire comme ça, c'est un peu nul. On commence par dire super Sakaguchi, Ori et Toriyama, c'est eux qui sont à l'origine de la beauté et de l'incroyabilité de ce jeu. Et après, qu'est-ce qu'on fait 2 ans après? On fait une fac d'histoire, on adore Napoléon. Donc doucement, doucement, doucement. Ok, on passe à la suite. Ensuite me dire ce jeu c'est un chef-d'œuvre parce que pour de la Super Nintendo c'est super beau. Et en plus Akira Toriyama au character design. Oui bien sûr, Akira Toriyama il a le même rôle dans Chrono Trigger que dans les Dragon Quest. Il a fait un bon travail qui est toujours le même puisque les personnages ressemblent à tous les personnages de Akira Toriyama. Mais à l'écran c'est pas les artworks de Toriyama qu'on voit. Il y a même plusieurs devs qui racontent dans les interviews qu'ils ont dû imaginer par exemple à quoi ressemblaient les monstres dessinés par Toriyama de dos. Parce que lui, il a fait des artworks où on ne les voyait pas de dos. Du coup, ils ont dû finir les œuvres pour les intégrer ensuite. En gros, celui qui a été le directeur des graphismes, c'est Tetsuya Takahashi, qui sera plus tard fondateur de Monolith Soft et de la série des Xeno. Et c'est vrai que le travail de Takahashi et des autres artistes est assez impressionnant. C'est vraiment c'est un beau jeu. Et là encore, ça s'explique du coup pas seulement par Toriyama, parce qu'il a fait les artworks, mais c'est pas lui qui les intégrait au jeu, c'est pas ce qu'on voit à l'écran. Et ce travail impressionnant qu'a pu être fait par les artistes et par, au départ, les idées de Toriyama, c'est parce que, on est encore une fois, si on regarde un point de vue très concret, très matériel, à la toute fin de la génération Super Nintendo, sur des technologies qui sont très maîtrisées, qui font aussi la part belle au mode 7 et au CGI. Enfin, la part belle, il y en a quelques fois qui est utilisée. Donc vraiment, on sent que c'est rodé. Et en plus, ils sont sur une cartouche de 32 mégas plutôt que 24. Du coup, ils ont laissé un peu plus de place aux animations, aux détails dans les fonds, etc. Et c'est vrai que le jeu fourmille de détails. Les décors sont assez impressionnants. Il y a beaucoup d'animations. Il y a vraiment beaucoup de fluidité dans les animations. Il y en a beaucoup, tout simplement, un grand nombre. Et le jeu utilise vraiment les animations pour caractériser les personnages. Bien sûr, c'est le cas dans beaucoup de JRPG de l'époque, parce que forcément, on n'avait accès qu'à des pixels et on pouvait, on va dire, représenter les émotions et les personnages et leur personnalité à travers des animations parfois un peu forcément exagérées, comme le jeu au théâtre. Mais là, quand même, elles sont très fluides, très impressionnantes. Même maintenant, c'est assez fou de voir toutes les animations qu'il y a, le pur nombre, et leur fluidité, et elles sont impressionnantes. Et en plus, la caméra dans Chrono Trigger est beaucoup plus proche que dans les JRPG classiques. Le point de vue, tout simplement, est vachement plus proche du personnage, beaucoup plus resserré. Les sprites des personnages sont donc plus gros. En tout cas, les sprites des personnages prennent plus de place à l'écran. Et du coup, c'est... Ils ont voulu jouer là-dessus, ça se remarque, c'est impressionnant, c'est clair et net, et ça sert vraiment à nous immerger dans un univers, autant par les décors qui sont mis de détails, certains ont été faits par Nomura, en passant, mais ouais, si vous pensez à la scène du procès, même la deuxième scène du procès avec le vitrail, etc., il y a des trucs super beaux, le château de Magus est assez impressionnant, et toutes les animations qu'il y a dans les combats, justement, on va arriver au combat, pour les attaques des différents personnages, etc., la magie et tout, c'est assez ouf. Donc ouais, effectivement, les graphismes jouent une grosse part dans le statut de Chrono Trigger, parce que même aujourd'hui, ils tiennent encore vraiment la route. Dans le cambouis, dans les systèmes. Bon, en dehors du système de combat, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est très bête et méchant. Il y a des stats primaires, secondaires, qui définissent les persos, des équipements à acheter, les équipements qu'on trouve, ils augmentent les stats, blablabla. À la fin du jeu, il y a des équipements avec des effets particuliers qui rendent l'équipement moins bête et méchant, justement, et nous poussent à réfléchir un peu plus à des choses qui ne sont pas juste des pures augmentations de stats, mais qui permettent certains effets particuliers. On a des équipements de riposte, d'absorption d'un élément, plus de vitesse, du coup on attaque plus vite, ou alors des techniques secrètes qui ne marchent qu'avec cet objet en accessoire. Là, on doit réfléchir un peu plus. Avant la fin du jeu, il n'y a pas besoin de réfléchir, hein. Soit on trouve dans les donjons, soit on achète, dès que c'est mieux. Mais vers la fin, effectivement, j'ai dû jouer un petit peu avec les équipements, me dire « Ah là, vu le combat, faut que je mette cette armure-là qui va absorber le feu, etc. etc. » C'était intéressant, mais ça a pris un peu de temps. Le système de combat, on peut en parler du coup, puisqu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à part ça. Il y a l'ATB du coup, l'Active Time Battle que vous connaissez. C'est la même chose que FF4 si vous avez écouté l'épisode. On peut du coup se faire attaquer dans les menus. Il y a une jauge qui se remplit en fonction de la statistique de vitesse du personnage. Quand elle est remplie, on peut attaquer. C'est du semi-temps réel, du tour par tour avec un petit goût de temps réel. Parce que du coup, pendant qu'on choisit notre magie, on peut se faire attaquer par l'ennemi qui lui aussi a une petite jauge qui se remplit. On peut bien sûr, si on veut, le mettre en semi-actif. Du coup, il y a la barre qui se remplit, mais quand on est dans un menu, là, il y a une pause et on peut tranquillement réfléchir à son attaque. J'avoue, à la fin du jeu, je suis passé en semi-actif parce que ça me saoulait. Je sais que sûrement que ça respecte pas la vision d'auteur, je ne sais pas quoi, le timing et tout. J'en ai profité les trois quarts du jeu, de l'active time battle, mais après je suis passé en semi-actif parce que parfois vraiment ça rend fou. Quand tu galères à aller dans un menu, surtout que je n'ai même pas dit, mais j'ai joué sur téléphone. Oh mon dieu, le sacrilège. Mais du coup, parfois, je devais scroller pour trouver une attaque. Et le temps que je scrolle, je me faisais attaquer. C'était un petit peu agaçant. Du coup, désolé pour les puristes. Deux fois désolé, même d'ailleurs. Pour le semi-actif et pour le téléphone. Mais voilà, en tout cas, système de combat classique. Ce qui change vraiment par contre par rapport aux autres JRPG, c'est qu'il n'y a pas de rencontre aléatoire. Alors dire ce qui change par rapport aux autres RPG, on a fait déjà pas mal de jeux sans rencontre aléatoire. On a fait FF15, on a fait Tales of Vesperia, on a fait Super Mario RPG, je crois aussi qu'il n'y en a pas. Donc ok, même Jade Cocoon, il n'y en a pas non plus. Bon, on a fait plein de jeux sans rencontre aléatoire. En fait, on a fait très peu de jeux avec des rencontres aléatoires finalement. Mais, à l'époque, c'était la base, là ça ne l'est pas. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Il y a des rencontres scriptées. C'est-à-dire que les combats sont pensés dans les donjons, ils sont mis en scène. C'est-à-dire que c'est pas. Contrairement à certains jeux que j'ai cités comme Tales of Vesperia, etc., où bien sûr le positionnement des ennemis est un peu réfléchi, là, ça va encore plus loin, la réflexion dans le positionnement des ennemis. Parce que du coup, il y a un exemple très simple qui est très parlant, je pense. À un moment, on se balade dans une montagne, je crois, et il y a un ennemi qui nous jette des trucs de l'autre côté d'une rivière. Du coup, on ne peut pas l'atteindre. On a bien le seum, il nous énerve, il nous jette des trucs à la gueule. On finit par atteindre l'autre côté de la rivière, et on voit l'ennemi qui nous jette des trucs en haut d'une échelle. On monte à l'échelle pour lui niquer sa race, il nous fait tomber de l'échelle. Non, il est outrecuidant, hein. Vous vous en rendez bien compte. Et une fois que vous avez tombé de l'échelle, il y a deux autres ennemis qui arrivent et ils nous attaquent à trois. Et c'était super bien pensé. Un exemple très bête, mais du coup, chaque rencontre prend en compte. On dirait que je suis Nekfeu. Chaque rencontre prend en compte les décomptes. Ouais, bref. Chaque rencontre prend en compte notre position dans le donjon. Là, cette fois-ci, l'exemple que je donne est très parlant parce qu'ils se moquent un peu de nous et ils savent très bien qu'on a envie de battre cet ennemi. Mais constamment dans les donjons, parce qu'il n'y a pas de combat dans l'Overworld, donc je parle que des donjons, il n'y a pas de combat sur la carte du monde. Ils sont réfléchis. Les ennemis vont peut-être. On va avancer dans un couloir, pas voir d'ennemis, et d'un coup ils vont sortir de derrière nous, ce qu'on les avait pas vus. Ou alors ils vont nous prendre à revers ou créer une embuscade, etc. Enfin, c'est très agréable, ça donne de l'épaisseur, entre guillemets, aux espaces qu'on parcourt, parce que les donjons sont du coup de véritables endroits avec des ennemis qui connaissent les lieux, qui nous attendent, qui nous tendent des embuscades, des pièges. Et pas uniquement des trucs qui sont là et qu'on peut choisir d'esquiver ou pas, comme dans le dernier Dragon Quest ou Tales of Vesperia, quand les rencontres ne sont pas aléatoires. Donc l'exploration est moins fastidieuse, il n'y a pas de combat sur l'Overworld, on peut apprécier les petites situations qui sont mises en scène par le script des combats, c'est plus rapide en plus. Après, je ne sais pas si c'est tenable sur un jeu plus long que Chrono Trigger. Chrono Trigger, il fait 20-30 heures, je crois que je l'ai fini en 25 heures. Les rencontres aléatoires, même si ça peut paraître parfois un peu chiant, ça permet quand même métaphoriquement de représenter les aléas du voyage. L'adversité qu'on rencontre, très bêtement, comme dans les jeux de rôle sur table où on doit jeter des dés pour voir si on rencontre un ennemi, etc. ou pas. Du coup, là ça marche parce qu'il y a, on va dire, l'envergure du jeu, l'envergure narrative, et du coup la durée, mais ça, les deux vont un peu ensemble, n'est pas trop grande, et du coup on peut se contenter de combats scriptés, de donjons assez quand même courts, en tout cas pas expansifs, avec des petites situations qui marchent bien sur le coup, mais déjà quand on doit refaire un donjon, est-ce qu'on doit faire un aller-retour, bah, ça ne marche plus, c'est plus amusant, c'est juste une rencontre relou, mais qui en plus est scriptée, mais du coup on se retape le script pour rien. Mais en tout cas je pense que ouais. Ce système, on pourrait dire, bah, il est super, faudrait que tout le monde fasse comme ça. Je sais pas si c'est tenable sur un jeu plus gros. Parce que, en fait, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. De scripter toutes les rencontres du jeu. Pour pas qu'elles soient aléatoires, pour qu'elles aient un sens. Ça me semble assez compliqué quand un jeu fait plus que 20-25 heures. Du coup, c'est une bonne idée, ça marche bien. Dans un jeu pas trop long, à mon avis. Après aussi, c'est important parce que les combats, il y a vraiment une insistance sur le positionnement. C'est aussi pour ça que les combats sont scriptés, parce que si les ennemis arrivent deux devant, un derrière, ça a une importance dans le système de combat de Chrono Trigger, où il n'y a pas de. Vous voyez ce que je veux dire? Pas besoin d'expliquer. Il n'y a pas ça. Bon, il n'y a pas de transition entre les phases d'exploration et les phases de combat. C'est-à-dire que du coup, on avance, on avance, on avance dans un couloir, un ennemi apparaît, bim, musique, nos personnages sortent leur épée, et c'est parti, on reste dans la même position. Et beaucoup de nos techniques, je vais parler juste après ce que sont les techniques, beaucoup de nos techniques reposent sur des zones d'effet. Par exemple, je sais pas, je fais un tourbillon avec mon épée, ça touche un petit rond autour de l'ennemi que je vise. Donc si les ennemis, il y en a un devant, deux derrière, j'ai plus intérêt à faire ma technique de tourbillon d'épée sur les deux, parce que je pourrais toucher les deux d'un coup, que sur celui qui est tout seul, parce que je pourrais le toucher que lui. Pareil, il y a des techniques où on vise les ennemis à l'horizontale, à la verticale, etc. Du coup, vraiment, le positionnement est assez important. Il va de pair avec le scriptage, je ne sais pas si ça se dit, mais vous comprenez, des combats. Bémol, on va dire, dans cette importance du positionnement accordé, bah c'est qu'on peut pas choisir le positionnement de nos personnages. Du coup, c'est important, les techniques en prennent compte, le script des combats en prend compte, le level design en prend compte aussi, du coup, mais on peut pas avoir un impact direct dessus. On ne fait que le subir, et c'est dommage, du coup. C'est relativement important, c'est-à-dire que ça fait partie de la mise en scène, ça fait partie du gameplay, mais ça va pas jusqu'au bout du délire. Enfin bref, c'est pas la fin du monde, mais c'est dommage. J'en parlais juste avant, du coup, les techniques. En gros, à chaque combat, les personnages gagnent de l'expérience, montent en niveau, montent leur stat, mais gagnent aussi des TP, des tech points. Et du coup, ils peuvent apprendre des techniques, mais parler du tourbillon d'épée, par exemple, ou bien de la magie, un peu plus tard. Et c'est des techniques qu'ils peuvent faire soit tout seul, soit à deux, soit à trois.
Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus eux, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez.
Et ça, c'est le point majeur de Chrono Trigger en termes de système de combat. Hein. Et c'est vrai que c'est super. Les techniques, ça permet de la diversité dans les combats. En plus, il y a l'histoire de positionnement, du coup, on fera pas la même technique selon comment les ennemis sont placés. Selon le groupe de personnages qu'on aura, on n'aura du coup pas accès aux mêmes techniques, et ça nous pousse à vouloir utiliser un peu tous les personnages et tenter plusieurs combinaisons pour voir quelle technique de duo ou de trio on va débloquer. Et ça donne en plus de la personnalité aux personnages, de la profondeur, et aussi de l'épaisseur à leur relation. On peut voir un peu leur complicité en tant que frères et sœurs d'armes se développer, parce qu'ils finissent par débloquer ensemble des techniques qu'ils font à plusieurs. Et un point important, Magus, un des personnages que je récupère plus tard, n'a quasiment pas de technique avec les autres, parce que c'est dans son personnage de ne pas en avoir avec les autres. Du coup, c'est pas mal. Vraiment, c'est un bon système de combat. Je ne sais pas si ça a été repris par d'autres jeux, sûrement, mais je ne les ai pas en tête. Si vous savez, dites-moi, s'il y a des systèmes de combat assez similaires. Mais il marche très bien, autant d'un point de vue mécanique que d'un point de vue thématique. Ça, c'est super pour le coup. Après, il y a aussi une histoire d'éléments. Chaque personnage, du coup, est lié à un élément, du coup, à une famille de magie. Chrono, c'est la lumière. Comment il s'appelle ? Luca, c'est le feu. Marle, c'est la glace, etc. etc. Mais il n'y a pas tant d'insistance que ça sur le pierre-feuille-ciseau élémentaire. Pas tant que ça. Et ce qu'il faut surtout dire concernant les combats de Chrono Trigger, c'est qu'ils sont quand même vachement pensés en termes de puzzle. Beaucoup de combats d'ennemis ou de boss, ils font comprendre quelle partie du boss toucher. Parce qu'une partie va régénérer l'autre, ou il faut faire dans un certain ordre. Et il y a aussi des résistances spécifiques que les ennemis vont avoir à tel type de magie, ou alors aux attaques physiques. Du coup, ça fait que le jeu, il est pas dur, il faut pas beaucoup grinder, c'est pas tant une histoire de nombre que ça, mais ça reste intéressant tout le long, parce qu'il faut toujours réfléchir et être attentif aux signaux que le jeu vous envoie. Ah là, j'ai tapé avec une épée, ça fait pas beaucoup de dégâts. Ah là, truc classique, je crois qu'on a dès le tout début du FF6, hein, si vous vous souvenez du boss, qui se recroqueville dans sa carapace et qu'on peut pas attaquer pendant ce temps-là, sinon il contre-attaque, ou pareil au début du FF7 avec le boss scorpion. Chrono Trigger, c'est ça tout le temps en fait. Soit les ennemis font des signaux pour dire qu'ils vont faire une grosse attaque bientôt, soit on comprend que en fait faut taper la tête d'abord pour pas qu'elle soigne le reste du corps, etc. etc. Jusqu'au boss de fin, qui est vraiment super, je trouve, de ce point de vue-là, parce que et ben il faut comprendre quelle partie du boss taper, sinon t'es là pour longtemps. Et donc ça, c'est vraiment agréable. Le système de combat, en soi, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est qu'il est pas hyper innovant, mais il est hyper efficace, les techniques rendent les persos attachants, ça repose vachement sur les animations, encore une fois, et j'ai écouté un podcast qui parle de Chrono Trigger, je le cite souvent ce podcast, de Abnormal Mapping, si vous parlez anglais, c'est vraiment une référence super en critique de jeux vidéo. Un des deux podcasteurs notait que les animations de combat et notamment de magie, parce que par exemple, un exemple technique en duo que le personnage peut faire, c'est Chrono, le héros, a un tourbillon d'épée, et Marle, une des personnages, la healeuse, enfin on remarque beaucoup de persos ont du heal, ça c'est bien d'ailleurs, une des healeuses peut faire un soin. Et si on les fait combattre suffisamment ensemble, ils développent une technique duo qui est un cyclone de soins. Du coup, Marle fait sa magie de soins, Chrono tourbillonne avec son épée et ça propage la magie de soins à tout le monde. Et il y a beaucoup de magie qui fonctionne comme ça, qui est très en fait tactile, très matérielle. Et c'est assez intéressant comme vision de la magie par l'animation parce que ça nous propulse dans un monde qui n'a pas une magie aussi éthérée et immatérielle que d'habitude. Là, vraiment, elle se transmet à travers les armes et les techniques duo nous font sentir en implicite un monde où la magie est presque palpable, malléable, et c'est assez intéressant, et j'aurais jamais fait gaffe à ça
si les personnes du podcast n'avaient pas parlé.
Et ouais, ça rajoute une dimension intéressante à l'animation, à la présentation, à la mise en scène des combats qui est assez importante. Donc autant sur la forme que sur le fond, les combats sont super.
Je suis pas sûr que ça innove tant que ça, même si le système technique est assez original, mais en tout cas c'est maîtrisé d'une main de maître, et c'est très agréable.
Est-ce que Chrono Trigger est un chef-d'œuvre parce qu'il a une histoire incroyable ?
Je sais pas.
L'histoire, elle est assez basique en soi. Les enjeux, c'est un JRPG mineur au départ, on doit sauver notre copse à cause d'une expérience scientifique ratée, ça finit par prendre de l'ampleur jusqu'à concerner le monde entier, très classique, autant dans la progression des enjeux, avec toujours un petit ton léger au départ jusqu'à un climax assez tragique, et une alternance assez toriyamesque, justement, entre gag et sérieux. Et une fin plutôt mignonne. La fin, elle est... j'aime bien. La fin. Il y en a beaucoup des fins. Mais je pense que la fin canon, en tout cas qui est canon dans mon cœur, elle est bien. Où les personnages repartent à l'aventure après, j'aime bien. En fait, ça correspond bien, le scénario, à l'univers de Toriyama, vu qu'il a donné les artworks qui est un peu la patte graphique, même si il a été adapté par les artistes, comme on l'a dit. Ben, ça marche bien. C'est super, tout va bien, pas de soucis. On retrouve... cette alternance de gags sérieux, un peu Dragon Ball dans l'écriture des personnages, des dialogues, qui aussi, pareil, entre fun et sérieux. Donc le scénario, ce qui est intéressant, c'est qu'il tourne autour du voyage dans le temps. Il y a Chrono dans le titre. Et il est bien géré, les voyages dans le temps. Si c'est Ori qui a fait les bases du scénario, ça m'étonne pas, parce qu'on a fait ensemble Dragon Quest 11, qui avait aussi des voyages dans le temps qui étaient bien gérés. Donc, c'est vraiment pas mal, même si c'est bizarre. Parce que les utilisations un peu plus subtiles du voyage dans le temps sont réservées aux quêtes annexes et pas à la quête principale. Donc bon. Après, le jeu, du coup, il met en scène pas mal de personnages qui sont tous très archétypaux, tous très peu écrits. L'époque veut ça, évidemment. On a même d'ailleurs un héros silencieux à la Dragon Quest. Mais c'est bizarre parce que le héros silencieux, qui pourrait être une coquille vide à la Link ou à la Gordon Freeman, là... il n'est pas censé être nous. On n'a pas de choix de dialogue pour jouer son rôle et pouvoir rentrer en lui et l'incarner. C'est vraiment un personnage qui existe, qui a ses caractéristiques propres, qui a son destin propre, tragique, mais qui est quand même silencieux. Donc ça, il a une position étrange. On retrouve le style de Ori, mais j'aurais préféré un Cécile de FF4 écrit plutôt qu'un gars silencieux qui n'est pas un avatar du joueur, et qui du coup a une position un peu étrange. Les autres personnages, à part Chrono, ils sont cool, mais vu qu'ils sont pas tant écrits que ça, ils existent surtout par leur animation, leur design, leur technique, et leurs thèmes musicaux. Alors là, la musique dans Chrono Trigger, j'en lâche une, elle est incroyable. Alors certains disent, oui, Uematsu, trop fort. Uematsu, il a quasiment rien fait sur la musique. Désolé encore de casser l'ambiance. Mais le mec qu'il faut féliciter dans l'histoire, c'est Yasunori Mitsuda, qui sera plus tard connu lui aussi pour les Xeno, et qui fait un travail incroyable, qui hélas à la fin du développement tombe gravement malade et du coup est remplacé pour la fin par Uematsu qui fait quelques très bonnes chansons aussi, mais très peu quand même par rapport à Mitsuda. Et ouais, la musique est vraiment super et elle sert vraiment à caractériser les personnages dans leurs thèmes musicaux qui sont vraiment fous. Du coup, les personnages, c'est pas tant l'histoire et les dialogues qui vont les caractériser plutôt que tout le reste en fait.
Je pense pas que l'écriture soit le vecteur d'attachement principal au personnage, à mon avis. Même s'il y a des quêtes qui sont sympas, justement, la structure du jeu est assez intéressante parce que c'est très linéaire et dirigiste pour amener à une sorte de climax assez surprenant. Si je spoil ou pas, mais bon, quelqu'un meurt et c'est surprenant. Je ne vous dis pas qui, mais en tout cas, ça surprend que cette personne-là meure. C'est peu impactant émotionnellement, mais on s'y attend pas. Peu impactant parce que ce personnage a une position étrange. Vous pouvez lire entre les lignes et mettre des indices chez vous. Et après ça, la structure est plus ouverte, elle est moins linéaire, et on peut revenir aux époques qu'on veut, faire des quêtes secondaires, etc. Et du coup, c'est pas mal. Et les quêtes secondaires sont vraiment pas si secondaires que ça, je trouve, parce qu'elles sont vraiment très bien. Elles développent vraiment les personnages un peu plus. Pas tant que ça, parce que c'est des arcs narratifs assez classiques, mais quand même, elles sont vraiment pas mal. Il y a un exemple, par exemple, oui, tout à fait, la quête secondaire de la forêt, avec un trope, un cliché du voyage temporel que j'adore, quand on laisse quelqu'un en plan pendant 200-300 ans et qu'on vient le rechercher plus tard. Je trouve ça super. Et là, c'est très bien utilisé. Il y a même on change le monde d'une façon vraiment plus radicale, presque dans l'histoire principale, où j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, l'impact qu'on a sur le monde est directement visible. Grâce à cette quête secondaire, il y a un trope que j'aime bien, il y a un développement de personnages assez intéressant, il y a même une scène où tous les personnages parlent autour d'un feu, avec un flashback important pour l'un des personnages, enfin bref, plein de trucs à côté desquels il faudrait pas passer si on fait le jeu, et qui pourtant sont relégués dans une quête secondaire, ce qui est assez fou. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, les thèmes sont sympas, les thèmes brassés par le jeu, mais ils sont très basiques, c'est juste que tout est bien fait, en fait, tout est bien exécuté. Donc, là encore, c'est pas tant l'histoire ou l'écriture qui rend le jeu mémorable, c'est le rythme, je pense. La maîtrise, plutôt que le contenu ou l'originalité. C'est que le jeu est rapide, il est bien rythmé, du coup. Vraiment, il y a des hauts, des bas, des pauses, ça repart, on peut aller un peu où on veut, c'est reparti. Enfin bref, c'est bien fait, quoi. Et il y a, ouais, une sorte de maestria assez incroyable, le coup du procès. Alors là encore, ça c'est un gros cliché, mais c'est vrai. Le coup du procès, c'est assez impressionnant. Il y a 10 ans, tout le monde se pignolait sur Spec Ops The Lines. Spec Ops The Lines. J'aime pas les gens qui rajoutent des S en anglais, et je viens de le faire, je me déteste, je le coupe pas au montage, je suis honnête. Donc, Spec Ops The Line. Tout le monde était en pamoison sur ce jeu, parce qu'il remettait en question les choix du joueur et tout, et ce qu'on avait fait comme action, sauf qu'on n'avait aucun choix dedans, dans ce jeu-là. Donc on nous reprochait un truc, on disait « Ah, t'as fait ça, c'est pas sympa ?» Alors qu'on pouvait pas faire autre chose dans Spec Ops The Line. À l'époque, moi aussi j'ai adoré le jeu, j'ai trouvé ça fou. Mais en y réfléchissant, en lisant des critiques et tout, on peut dire que c'est un peu artificiel comme coup. Alors que dans Chrono Trigger, ça marche un peu mieux que dans Spec Ops The Line, le coup du procès. Pour ceux qui connaîtraient pas, je résume. Au début du jeu, au tout début du jeu, on va à la fête à la foire du millénaire, une sorte de foire du trône locale où tout le monde peut gagner, il n'y a pas de perdants et il n'y a que des vainqueurs. C'est pas comme ça qu'ils parlent les forains, mais vous comprenez l'idée. Et on rencontre une jeune fille, on se cogne dans elle, et là par exemple on peut soit aller lui parler, soit récupérer le collier, le pendentif qui est tombé pendant qu'on s'est cogné et qui est très brillant. Si vous êtes un joueur de JRPG, vous savez que c'est pas grave que vous rentriez dans les maisons des gens et que de toute façon, ça n'a pas d'importance, c'est un petit théâtre fait pour vous, hein, le monde du JRPG. Du coup, vous allez ramasser l'objet brillant, après vous allez parler à la meuf. Pareil, dans la foire, vous baladez, il y a un vieux qui dit « Ne mangez pas mon repas, il est sur la table là, il est très bon, j'ai hâte de le manger. » Bah vous le mangez, parce que c'est marrant et qu'il va faire quoi de toute façon. Vous passez votre temps à voler des objets dans les tiroirs des gens et personne se plaint. Et ben là, ils y ont pensé, ils le savent, et au bout d'un moment, il y a un procès où des gens viennent témoigner. Et les actions que vous avez faites à la foire, fait ou pas, manger le déjeuner du vieux ou pas, ramasser le collier en premier ou avoir été parler à, je sais pas si c'est français, ou être allé parler à la meuf en premier, et plein d'autres petites choses, sauver le chat d'une enfant, font que des gens vont venir témoigner contre ou pour vous dans le procès. Et ça c'est malin, comme retournement des codes du JRPG, de nos expectatives en tant que joueur déjà un peu aguerri en 95 de JRPG qui avons déjà joué à 6 Final Fantasy, à 5 ou 6 Dragon Quest, et avons déjà un peu intégré le côté très théâtral et artificiel du monde des JRPG, là, il nous le renvoie un peu en pleine face. Et c'est un moment assez incroyable. Je l'avais déjà vécu parce que j'avais déjà essayé le jeu plusieurs fois, mais on s'en lasse pas. Cette fois-ci, je crois que vu que je connaissais un peu l'histoire, j'ai réussi à ne pas être condamné. Ça change rien, mais plus de gens ont voté pour moi et m'innocenter. Je pensais même pas que c'était possible, vu qu'à chaque fois je l'ai fait deux, trois fois, je perdais à chaque fois, j'étais toujours coupable. Là, je l'ai pas été, j'étais très content de voir qu'on pouvait influencer jusque-là le jeu. Mais en tout cas, c'est un super moment. Donc ouais, c'est pas original pour un sou. L'écriture, bah, vu l'époque, vu. En fait, il y a beaucoup plus de place qui est accordée aux animations, au graphisme, aux musiques, au système, qu'à l'écriture en tant que telle, des dialogues ou des personnages. Même si encore une fois, l'histoire, bon, bah, elle est sympa, hein, mais c'est une histoire classique. Mais par contre, il y a des moments de. Des moments brillants, quoi. Et ça, on peut pas l'enlever au jeu pour le coup. Après, est-ce que c'est dû à Ori, au rédacteur du script, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est fou. On peut pas enlever ça au jeu, c'est fou. Chrono Trigger, c'est un grand jeu. Bah, la question, elle est vite répondue. Oui, bien sûr, c'est un grand jeu, c'est un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre alors au sens premier du terme. C'est-à-dire, alors, c'est quoi un chef-d'œuvre? Allez sur Wikipédia. Chef-d'œuvre. Je tape chef-d'œuvre. Œuvre capitale et difficile qu'un compagnon doit faire pour passer maître dans son métier. Donc, c'est un travail d'artisanat. Et je pense qu'on peut considérer Chrono Trigger comme un travail d'artisan, d'artisan, mais sûrement pas comme le produit, le fruit de l'association de trois génies qui se sont mis ensemble, qui ont posé des bases et qui après, excusez-moi, mais ont supervisé. Ils avaient pas, si je me trompe pas, ou alors j'ai rien compris à tout ce que j'ai lu sur le jeu, mais ils n'avaient pas les mains dans le cambouis. Et du coup, pourquoi Chrono Trigger est un chef-d'œuvre? Pas parce que son système de combat est incroyablement original, il est très bon, il est maîtrisé, les techniques c'est super. Pas parce que le scénario est incroyable, il est surprenant, il est là aussi maîtrisé. Mais ce qui fait dans l'expérience de jeu de Chrono Trigger un grand jeu, c'est les rythmes, c'est l'absence de friction, sans que pour autant ce soit trivial. C'est-à-dire qu'il arrive à être prenant, épais, mais pas lent ou répétitif ou chiant ou trop long. Et ça, c'est fou. Et ça tient que au rythme et ouais, à un petit truc, un agencement de plein de petits trucs qui marchent bien entre eux. Et je pense pas que ça, on puisse dire que c'est dû au travail de la Dream Team et des trois grands noms qu'on cite, qui même, quand on regarde toutes les fins sur YouTube, parce que qui va s'amuser à faire le jeu 15 fois? Pas moi, en tout cas. La fin un peu spéciale où on peut rentrer dans la sorte de salle où on peut parler à tous les développeurs. Toriyama, Sakaguchi et Ori, ce sont les trois seuls qui ont un modèle en jeu qui les représente. Tous les autres développeurs du jeu sont présents, mais ont la forme de monstres du jeu. Il y a leur nom dans la bulle de dialogue, et ils ont tous un petit dialogue personnalisé qu'ils ont dû choisir. Mais les trois pontes, ce sont les seuls qui ont leur propre modèle 2D, leur propre sprite. Et ça m'agace. Moi, je veux que tout le monde ait du sprite. Parce qu'il commence à faire chaud. Non mais en tout cas je sais que quand un bâtiment est joli et bien construit, on a tendance à admirer l'architecte et il est admirable pour ce qu'il a fait. Mais il serait peut-être temps aussi de penser à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses. Et c'est moi, Stavro Laguiller, mais en tout cas aux artisans quoi qui réalisent pour le coup avec Chrono Trigger un chef-d'œuvre au sens artisanal. Et pour réaliser un chef-d'œuvre, il suffit pas d'avoir des bonnes idées, d'avoir des bons brouillons, de donner des bonnes bases. Il faut effectuer minutieusement l'effort et le travail que demande une création, une fabrication d'un chef-d'œuvre. Et ça, c'est sur le long terme, et c'est concret, et c'est fatigant, et c'est dans la durée, et dans la précision. Et là, je me répète, mais vous avez compris, je crois, où je veux en venir. Peut-être que ça vous semble un peu une position, on va dire, exagérée, mais elle n'aurait pas à être aussi exagérée si de l'autre côté, il n'y avait pas un tel flot et un tel, une telle concentration d'attention autour de ces trois figures, même dans la façon dont on parle de Chrono Trigger aujourd'hui. Je ne dis pas que je suis le seul à citer les autres noms, je sais bien que je ne suis pas le seul gros malin à avoir lu plus de trucs que ça sur Chrono Trigger. Sûrement vous avez déjà en tête aussi d'autres gens qui ont travaillé dessus. Mais j'ai l'impression que quand on parle du jeu rapidement, on parle de ces trois noms-là. Et encore une fois, oui, ça fait vendre, oui. Et peut-être que le jeu, du coup, participe à son propre mythe en n'ayant mis que leur sprite à eux. Et du coup, peut-être je me bats contre des moulins parce que le jeu veut aussi transmettre ce message-là de la Dream Team. Mais bah moi, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Moi, je me battrai, moi. Moi, je suis là. Voilà. Donc, votez pour moi. Aimez Chrono Trigger, même 30 piges après. Mais arrêtez cette fixation sur les grands artistes, les grands auteurs qui ont posé toutes les bases et après des petites mains sont venues derrière effectuer presque comme une recette de cuisine ce que les grands génies avaient pensé. Bah non, c'est pas vrai. C'est plus compliqué que ça. Ils méritent pas ça. C'est comme le pauvre Mitsuda pour la musique. On se dit, ah en plus, Uematsu a travaillé dessus. Uematsu, il a fait trois chansons, les gars. Le gars, il tombe malade, Mitsuda, et après, on l'oublie en plus. Non, mais là aussi, j'exagère, je sais. Peut-être que j'en fais trop et je repousse trop dans l'autre sens. Peut-être ma position est un peu trop extrême, mais c'est vous qui avez commencé à dire toujours, oh là là, Chrono Trigger, la Dream Team, meilleur JRPG de tous les temps. Peut-être que c'est un des meilleurs JRPG de tous les temps. Peut-être. Mais si vous dites ça, vous dites pas les trois noms, alors. C'est l'un ou l'autre. Non, mais c'est fou qu'ils tiennent encore aussi bien la route, mais je pense vraiment qu'on peut l'expliquer par des raisons structurelles et matérielles. Plutôt que par une théorie de l'auteur et une glorification de trois personnes. Quoi. Ça me semblerait plus intéressant historiographiquement et intellectuellement de penser ça comme ça. Ça nous pousserait à réfléchir au temps dans l'histoire du JRPG où apparaît Chrono Trigger, à la continuité de Chrono Trigger et au dialogue qu'il a avec les autres œuvres qui le précèdent, comme FF6 qui est juste avant, ou comme Super Mario RPG qui arrive pas longtemps après. Etc, etc. À ce qu'ont fait les gens qui ont travaillé dessus avant et tout. Ça me semble plus intéressant, en fait, de penser le jeu vidéo et ce jeu vidéo comme ça qu'en se touchant sur les trois mêmes noms, quoi. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que ce serait Chrono Trigger dans notre petit village de JRPG ? Bonne question, j'ai pas du tout réfléchi à ça. Bah, pourquoi est-ce que vous me diriez pas ce que c'est, à votre avis ? Alors, faut que ça soit cohérent avec mon propos, hein, évidemment. Si vous me dites, par exemple, notre rigueur, c'est la place des grands hommes parce que c'est des grands hommes qui l'ont fait, non. Bah, vous avez le droit de dire ça, mais moi, je le dirai pas. Mais on peut essayer de faire ça, parce que là, j'ai pas réfléchi, j'ai pas d'idée. Donc, si vous avez écouté l'épisode, et vous avez envie de trouver une place dans notre village du JRPG à Chrono Trigger, donc une métaphore un peu pourrie, qu'est-ce que serait... FF15, c'était un échafaudage, truc d'avant, c'était un parc, une bibliothèque, un glacier, je sais plus comme quelle connerie je raconte à la fin. Mais voilà, vous pouvez essayer de réfléchir à ce que serait Chrono Trigger dans notre village. Je serais ravi de l'entendre. Et puis bah voilà, on va se quitter sur ça. On se retrouve bientôt. Bientôt, bon voilà, on se retrouve, en tout cas, on se retrouvera toujours. En ce moment, je joue à quoi, du coup ? Je suis à la fin de Chris Tray... On dirait que je dis Chris Prowls. À la fin de Chris Tales. Il doit me rester 5-6 heures, je pense, de jeu. Mais à chaque fois, je pense l'avoir fini, il rajoute des trucs. Du coup, ça m'agace. Mais je vais finir par le finir. Et sinon, j'en suis à plus de 40 heures de... Est-ce que je vous le dis ? Non. J'en suis à plus de 40 heures, en tout cas. Et je suis pas prêt de l'avoir fini. Ça peut donner un indice, un jeu qui est très long. Peut-être trop long, je ne sais pas encore. Et un autre indice, j'aime bien la musique. Ça, c'est un indice qui vous aide. Non, mais ça vous fait deviner, comme ça vous fait réfléchir. Le jeu est connu pour sa musique hein, aussi. Et il est beaucoup plus récent que Chrono Trigger. Voilà, j'en ne dirai pas plus. Bon, bah voilà, n'hésitez pas, remarques, commentaires, vous allez sur Twitter, parce qu'il n'y a que ça que je check. Ou par mail, hein, podcast.niveausupérieur@gmail.com ou bien par PayPal, hein, bien sûr, je reçois votre amour aussi comme ça fait plaisir. Et puis, on se dit à bientôt. Et sur Twitter pour ce qu'est Chrono Trigger dans le village des JRPG. Voilà. Allez, on se fait des bisous. Et surtout, n'oubliez pas, dans la vie comme dans les jeux, de ne pas idolâtrer les patrons. Ah non, mais voilà. Peut-être que ça passerait par ça. 2. Dans la vie comme dans les jeux, tout faire pour aller toujours essayer, en tout cas, au niveau supérieur. Parce qu'en fait j'ai pas fini de parler. Je vais vous dire, il y a une conception de l'histoire de jeux vidéo qui est idéaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et là bon, peut-être vous savez déjà ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Ça veut dire que pour vous, ce qui est le plus important, c'est l'idée, c'est le concept, et que c'est l'idée et le concept qui changent le monde dans un second temps. Donc en fait, la matière, ce qui existe de fait concrètement autour de vous, vous partez du principe que on a une idée, un concept, un plan, et qu'après on le met à exécution. Et que du coup, la conscience s'actualise dans la concrétisation d'un projet, et que par de la conscience, par les idées, d'où le terme idéaliste, on va pouvoir influencer le monde. Et pour vous, ça va dans ce sens-là. Eh ben, il serait peut-être temps de lire Marx, de s'intéresser à la conception matérialiste, qui renverse cette idée sur sa tête, qui s'oppose à Hegel, parce que vous êtes tous hegeliens, et c'est pas beau, c'est pas bien beau d'être hegelien, surtout maintenant. Non, pas forcément maintenant, c'est juste c'est nul, quoi. Mais Marx, il a dit plein de trucs, hein. Il a fait des gros livres. Mais il a dit une phrase qui n'est pas si compliquée à retenir, c'est que ce sont les conditions matérielles concrètes, l'homme tel qu'il existe, qui vont ensuite, ces conditions matérielles concrètes, de fait, influencer la conscience de l'être humain. C'est le monde dans lequel vous existez, dans lequel vous évoluez, et plus précisément, si on suit Marx, les conditions de production des biens matériels, donc les rapports économiques, et comment se constitue la chaîne de production, les moyens de production, etc., etc., mais peu importe. En tout cas, ce sont les conditions matérielles concrètes qui vont influencer la conscience, et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Et je pense que ce serait intéressant de penser à l'histoire du jeu vidéo comme ça. Je suis pas le premier gros malin à dire ça. Il y a un bouquin qui s'appelle, si je me trompe pas, je le dis de tête, Games as Empire, de deux auteurs américains, ou canadiens, je sais plus, qui justement pratiquent une histoire marxiste du jeu vidéo. Je l'ai pas lu le livre, j'espère le lire, mais il coûte cher. Donc je le lirai un jour, je vous en parlerai. Mais je pense que ça serait pas mal, peut-être, avant d'être marxiste, de commencer déjà à être un peu moins idéaliste et un peu moins centré sur la théorie de l'auteur et du génie. Voilà. Là, maintenant, j'ai fini. Allez. Bisous.
L'esclave, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous, c'est la lutte finale, pour nous et demain, l'internationale sera le genre humain.
Il s'agirait en fait... Parce que j'ai pas fini finalement. Il s'agirait en fait peut-être, et là je pense que je vais vous choquer, hein, peut-être pas d'aller dans le niveau supérieur, de s'élever dans les sphères de la raison, parce que souvent symboliquement, depuis peut-être Platon et ensuite encore plus avec le christianisme, l'élévation, elle est souvent signe de bonté morale, ou c'est une élévation intellectuelle, on s'élève intellectuellement. On grandit intellectuellement, on prend de la hauteur intellectuelle. On passe au niveau supérieur. Peut-être qu'il serait temps, mais c'est une idée un peu bizarre, hein, de retourner au niveau inférieur et de se remettre un peu dans la boue et dans le concret, la matière. D'oser peut-être regarder ce qui se passe autour et comment ça nous modifie et comment ça nous influence. Et y compris dans l'histoire du jeu vidéo, en l'occurrence de Chrono Trigger. Donc, peut-être que cette fois-ci, je vais vous dire de faire votre mieux dans la vie comme dans les jeux, pour retourner au niveau inférieur.